RCF.
Comment désamorcer la mauvaise foi et réchauffer le cœur endurci ? Une fois encore, Jésus va user de son talent de conteur pour affronter les religieux qui tentent de le piéger. Dans l'évangile de ce dimanche, il affirme à ses détracteurs qu'une femme de mauvaise vie qui croit sur parole est plus avancée dans le royaume que ceux qui détiennent les clés du temple. Une parole vraie pour tenter de réveiller en l'homme tout ce qui sonne creux, pour dénoncer aussi les faux engagements et les pratiques religieuses hypocrites. Pour commenter cet évangile, je reçois Jean-François Noël, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre à Istres et vous êtes également psychanalyste. Nous écoutons la parole, c'est chez Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32.
Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent, « Le premier !» Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repenti pour croire à sa parole.
Jean-François Noël, il nous faut tout d'abord resituer le contexte dans lequel Jésus s'adresse aux prêtres et aux anciens. Jésus vient d'avoir un échange avec eux au sujet de Jean-Baptiste. Il leur a demandé si le baptême de Jean était du ciel ou des hommes et puis ils n'ont pas répondu à la question.
En fait, la question posée, c'est la question... Avec quelle autorité Jésus veut parler ? Enfin, avec quelle autorité il est ou non reçu ? Voilà. Qui a autorité sur qui et qu'est-ce que veut dire autorité ? Évidemment, eux, ils attendent un pouvoir, un exercice comme ça. Et Jésus va essayer de les amener à une autre interrogation. Il renvoie à une interrogation dans laquelle ils sont bloqués, les interrogateurs sont bloqués. En fait, Jésus est souvent dans une position un peu de maïotique, enfin d'interroger. Et là, on tombe sur une sorte d'impasse, puisque s'ils répondent ci, répondent ça, etc., on n'aura pas de bonne réponse. Et donc, il va contourner ce blocage intérieur, et il va le contourner par une petite histoire.
Alors, une parabole, justement, est-ce que vous pourriez dire en deux mots ce que représente pour vous la parabole ?
Vous savez, souvent, quand on veut raconter une chose grave, c'est quand même le principe le plus fréquent dans l'histoire de la pensée humaine, on va le passer par une sorte de fiction. Voilà. Parce qu'en fait, la fiction est bien plus éloquente, parfois, que le fait raconté en tant que tel. Et donc, la parabole, qui est la fiction la plus évidente dans l'Évangile, c'est une sorte de distance pour que on n'ait pas les yeux ou la pensée collée sur le problème, mais que on entende par une histoire. Vous rappelez cette fameuse histoire de David qui a été jusqu'au meurtre du mari de la femme qu'il a désirée et qu'il ne veut rien entendre et qu'il faut que le prophète Nathan lui raconte une petite parabole pour que David s'énerve et dise, ah ben cet homme-là il faut le tuer. Donc vous voyez bien que la fiction a une fonction extrêmement intéressante d'accouchement de soi-même. Bon.
Jean-François Noël, nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche. Alors nous allons reprendre verset par verset cette parole. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci ?» qui est aussi traduit, « Quel est votre avis ?» Donc c'est une manière de mettre ses interlocuteurs en position active, là, de la part de Jésus. « Que pensez-vous de ceci ?» Il veut les mobiliser.
Oui, parce que on avait entendu précédemment que ils se disaient en eux-mêmes, donc cette espèce de colloque là à laquelle Jésus a accès, je sais pas d'ailleurs, il entend le cœur des hommes, hein, donc il entend le piège dont ils n'arrivent pas à se tirer eux-mêmes. Si nous disons ça, etc.
Et là, il va les tirer.
En fait, il n'y a pas de pensée, il y a que de la crainte et de la peur.
Hein. Et il va les extirper.
Et surtout, il va les extirper. Donc, il va introduire une sorte de distance pour les amener à. Alors, quand on dit les amener à penser, les gens pensent toujours, là, mon Dieu, c'est encore intellectuel. Non, non, non. tournant. Il va les amener à retrouver le goût de l'interrogation sur eux-mêmes. C'est pas de la pensée, c'est pas la lecture de Kant. Et d'ailleurs, c'est intéressant, vous allez voir pour la suite, c'est qu'il va les amener à se défaire de la non-pensée, en fait, de la non-pensée. Hein. Ils ne pensent pas, ils sont bloqués. Si je fais ci, si je fais ça, si machin fait ci, si machin fait ça. Et donc, il va revenir avec des mots, avec une parole, avec quelque chose de vivant, pour qu'ils redeviennent vivants, quoi.
Un homme avait deux fils, nous dit le texte. La traduction liturgique parle de fils, pourtant le grec dit enfant. Alors enfant ou fils, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Nous naissons enfants, mais nous devenons fils. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ?
Alors moi, je pense que de toute façon, à chaque fois qu'il y a une sorte de parabole comme ça, où la filiation est en cause, c'est là que l'homme peut se retrouver. Au fond, c'est quand il va être nommé enfant de Dieu, qu'il va pouvoir retrouver une sorte de vie vivante, de fraîcheur en lui, en s'adressant au Père, devenir homme. Comme si l'accès à la plénitude de l'humanité ne se passait que par la filiation, et que c'est dans cette filiation qui, loin d'être une sorte de réduction, alors je suis enfant, donc je suis pas le Père. Non, pas du tout. C'est que je suis enfant du Père et que je peux entendre ce que le Père peut me dire.
Un homme avait deux enfants, rien n'est dit sur l'identité de l'homme et rien n'est dit sur l'identité de ses deux enfants.
Non.
Ça, c'est une caractéristique souvent des paraboles, parce que très souvent, on peut projeter des choses hein, sur la parabole, notamment ben, l'homme, c'est Dieu. Il y a une grande sobriété.
Oui, comme si l'image est très très épurée pour que, en fait, on ne soit pas obligé de projeter une image tout de suite. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai, la première fois que je l'ai lu, j'ai pensé moi-même à moi-même, à mon père ou au père que j'ai, qui ont compté dans ma vie. J'ai dire, c'est fait de telle façon que, de toute façon, moi, c'est mon hypothèse depuis longtemps, c'est que c'est pas nous qui analysons le texte, c'est le texte qui vient nous analyser et qui réveille en nous, comme une personne vivante qui vient réveiller en nous les interrogations. Et donc moi-même, que je me suis dit, tiens, c'est marrant, moi aussi j'ai un père, enfin j'ai eu, mon papa est mort maintenant, mais j'ai un père et j'ai aussi un frère, un jeune frère, plus jeune, donc nous sommes deux, etc. Donc en fait, nous sommes, la simplicité, la sobriété des images fait que nous sommes libres, nous sommes tout à fait libres pour inventer. Ça nous permet justement de nous défaire de l'emprise dans laquelle nous étions, l'emprise de la peur et l'emprise des impasses de pensée.
Jean-François Noël, nous lisons avec vous, je le rappelle, l'évangile de ce dimanche, chez Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Jésus est donc en train de raconter une parabole aux anciens du peuple et aux grands prêtres. Un homme avait deux enfants, il vint trouver le premier et lui dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui à ma vigne ». Mon enfant, on ne sait pas à qui s'adresse le père, est-ce à l'aîné, est-ce au cadet ?
Alors de fait, là, il n'y a pas de position de cadet d'aîné et de cadet.
Contrairement au fils prodigue. Hein.
Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est que quand un père dit « mon enfant » à ses fils, c'est qu'il les considère également du côté de, non seulement de la filiation, mais du côté de l'affection. Hein. Je pense que là, on peut quand même entendre que c'est pas un ordre sévère d'un père qui dit « va travailler, va faire tes devoirs », etc. Enfin, ce que nous avons tous entendu quand nous ne voulions pas. Mais là, il y a quelque chose de « le va travailler à ta vigne » est une invitation à travailler aux œuvres du père. Enfin, on voit bien qu'il y a une collaboration.
La vigne, qu'est-ce que ça représente ?
Bah, la vigne, c'est effectivement, c'est la mission la plus large qui soit. Non, tous les auteurs entendaient bien, puisque le Christ a sans arrêt parlé et a sans arrêt comparé la vigne au vigneron, à la greffe, au raisin et au vin. On voit bien qu'il y a, tout est dit du royaume, de la proximité du royaume, travaille aux œuvres de Dieu. Hein, je pense que c'est quelque chose comme ça.
Va aujourd'hui travailler à ma vigne. Donc, il y a le aujourd'hui, c'est pas demain, c'est maintenant. Comment vous entendez cet aujourd'hui ?
C'est pas simplement, vous voyez, un ordre d'une charge ou d'une que le père aurait imposé à son enfant. C'est que c'est sa vocation. C'est plus quelque chose comme la vocation. Va aujourd'hui travailler à la vigne, ça veut dire va accomplir ce qui fait ta tâche d'homme d'aujourd'hui. C'est ce que je veux faire fructifier pour les hommes. Et cet aujourd'hui n'est pas, parce qu'il faudrait pas le faire demain ni après-demain, c'est le moment, c'est l'instant, c'est le moment donné pour que tu puisses t'en aller décider de faire fructifier, de travailler à ta vigne.
RCF. Enfin une bonne nouvelle.
Jean-François Noël, écoutons la suite de la parabole. À la demande du père, le premier enfant sollicité pour travailler dit « je ne veux pas ». Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. La réponse est très claire, « je ne veux pas ». L'enfant prend position, il dit « je ».
Voilà, et donc il s'exprime comme un enfant, qui, au fond, n'a pas envie, ne trouve pas en lui cet accord entre la volonté du père et sa volonté propre.
Mais en même temps, est-ce que c'est pas, au contraire, une manière de dire « j'existe et je peux dire quelque chose devant toi ».
Oui, et d'ailleurs, le texte ne condamne pas cette position-là. Et c'est un aveu direct, comme tous les parents pourraient, qui nous entendent pourraient le reconnaître eux-mêmes. Je ne veux pas ranger ma chambre, je ne veux pas aller me coucher, je ne veux pas. Et donc, on a affaire là. Alors, d'ailleurs, c'est ce qui est indiqué précédemment. On a affaire là, dans la processus de la croissance personnelle, à l'identification de ma volonté, et la volonté, elle passe par dire d'abord un peu non. Voilà. Ce n'est d'ailleurs pas condamné par le texte. C'est que je ne veux pas, parce que il faut bien passer par un non pour devenir quelqu'un. On sait bien que, dit non, parce que la subjectivité est obligée de passer par cette protection, cette mise à distance.
Alors, mais ensuite, le texte nous dit qu'il s'est repenti, cet enfant, et il y alla à la vigne.
Alors évidemment, ça c'est le centre de ce texte. Ensuite. Moi, je me suis arrêté, en fait, à ensuite. Parce que ensuite, ça veut dire qu'il y a un délai. Il y a un délai, c'est pas immédiatement que le retour sur lui-même, ce retour sur la conscience, va ouvrir à le mot qui est central, évidemment, c'est le mot de repentir.
Comment vous l'entendez? Ça veut dire quoi, repentir, là?
J'adore ce mot. Parce que, en fait, c'est un mot qui paraît un peu désuet et ancien, mais c'est qu'il y avait en lui une petite chambre avec un doute, un endroit qui n'était pas tout à fait accordé à ce « je ne veux pas » et qu'il maintenait comme une interrogation sans réponse pour l'instant et qui avait comme une instance suspendue. J'ai dit « je ne veux pas », mais est-ce que tout en moi ne veut pas ? Et qu'il y a un endroit encore non interrogé. Oui, il y a deux choses. C'est spatial et temporel. Temporel, parce que c'est pas tout de suite. Il faut qu'il y ait un délai. Alors, même dans l'enfant prodigue, on aura vu que le délai est un peu long, parce qu'il va falloir qu'il aille jusqu'au bout de sa déréliction pour ensuite prendre conscience d'eux. Mais là, ce délai est immédiatement. Au fond, il y a un travail. C'est intéressant. Il y a un travail de conscience intérieure. C'est magnifique. C'est ce que l'évangile appelle la chambre intérieure. Au fond, quand il a dit je ne veux pas, il l'a dit dans l'immédiateté, des affects comme ça. Bah non, je ne veux pas. Et puis, le recul et l'instant proposé qu'il se propose le fait revenir en lui-même, retour à soi, et lui fait prendre le temps de s'interroger plus profondément. Et là, il tombe sur le repentir. Il tombe sur cette question permanente qui, quand même, hante nos esprits, que nous ne savons pas très bien ce que nous voulons. Et qu'il y a sans arrêt, et c'est très fatigant, enfin même plus âgé, on ne coïncide pas avec notre propre volonté, notre propre désir.
Voilà, c'est aussi là un aveu de sa fragilité humaine, qu'on ne sait pas forcément tout de suite.
Ben non, la réponse immédiate... Alors, d'ailleurs, les interlocuteurs du début du texte, ils étaient coincés le nez sur la vitre, vous voyez, il n'y avait pas de pensée.
Oui, les religieux, là.
Les religieux. Alors, là, on a un début de pensée au sens de vie intérieure. Et là, on a un début. Et lui, il prend conscience. Je me suis entendu dire une chose avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord. Au fond, quand j'ai dit je ne veux pas, tout en moi n'était pas entièrement d'accord parce que c'était trop rapide. Comme si les délais... Alors d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est exactement la leçon qu'il veut envoyer aux fameux pharisiens ou en tout cas aux interlocuteurs précédents, de prendre le temps de ne pas répondre. Même s'ils répondent trop vite, de ne pas donner pleinement un accord à cette première réponse. Et puis, c'est-à-dire intéressant, il ne dit rien de plus. Il y a une sorte d'accord profond par le repentir. Cet enfant et ce fils s'élancent naturellement, enfin s'élancent avec confiance. Voilà. Il s'élance avec confiance dans ce repentir et dans ce retour sur soi, comme s'il s'était réconcilié avec lui-même et qu'il avait découvert qu'au fond, il voulait bien y aller.
Jean-François Noël, le père va aborder son second enfant et faire la même demande qu'au premier, à savoir « va travailler à ma vigne », celui-ci répondit « oui, Seigneur », et il n'y alla pas. « Oui, Seigneur ».
En fait, c'est toujours comme... Alors, pour le coup, on ne peut pas ne pas évoquer l'enfant prodigue, parce que l'enfant prodigue, l'aîné était coincé dans une obéissance aveugle, je fais tout ce qu'il faut, on n'a rien à me reprocher, mais en fait, je suis amer comme un vieux vin, et puis que l'autre était parti. Donc, les deux positions sont toujours des jeux, complémentaires dans lesquels nous allons nous retrouver nous-mêmes, évidemment. Personne ne peut penser qu'il est simplement le cadet ou l'aîné dans la parabole de l'enfant prodigue. Et là, si quelqu'un avait pu penser qu'il était dans le premier enfant, peut-être qu'il est rattrapé par le deuxième. Donc, en fait,
c'est nous deux à chaque fois.
Nous deux à chaque fois. Et c'est ce deux, c'est comme deux faces, comme ça, deux positions. Donc, la première position est une position, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans l'enfant prodigue, c'est aussi le premier qui est énoncé et qui fait ce long chemin sur lui-même. Et puis, je vais y revenir. Et puis, le deuxième, là, il est dans l'amertume et dans le reproche. Il est dans le reproche. Au fond, tout en lui dit non, mais il ne peut pas se l'avouer.
Oui, c'est Seigneur, comme... en fait, il a envie de dire non.
Ah ben bien sûr, mais il n'a pas ni le courage ni la force d'affronter son père, et donc il ment à Dieu, il ment au père, mais il se ment à lui-même. En fait, je trouve que la parallèle avec les deux enfants de la parabole en fondique marche beaucoup, d'autant mieux que le premier, donc l'aîné, qui est... il faut bien comprendre que dans la Bible, on n'aime pas beaucoup les aînés, parce que c'est à la fois ceux qui ont la charge de la bénédiction, donc ils sont à la fois plus investis de la bénédiction de Dieu, et que au fond, c'est parfois les cadets qui s'en sortent, confère Jacob, évidemment, qui va carrément voler le droit d'aînesse. Mais enfin, il n'empêche que... En tout cas, il y a un parallèle incroyable, c'est que ce premier-là, n'a pas le courage de dire « je ne veux pas », qui était donc accueilli par Dieu, par le Père. Et lui, il n'a pas le courage de dire ça, il se ment déjà à lui-même, et ne se mentant à lui-même, je veux dire, il creuse sa propre fosse, quoi. Il creuse sa fosse, il creuse l'impossibilité de consentir à un autre que lui-même. Alors, je vais aller plus loin. Le premier, au fond, dans son repentir, s'interroge sur ce qu'il pense du Père. Est-ce que le Père m'a obligé à faire ça, ou est-ce que, au fond... Moi aussi, je veux travailler aux œuvres.
Et que c'était une invitation pour son bien.
Et pour son bien, oui, quelque chose comme ça, comme on dit à un enfant. C'est-à-dire que le deuxième, il n'est pas sorti de lui. Et il restait enfermé dans ses convictions un peu peureuses et un peu étriquées, en disant, de toute façon, il ne va pas entendre que je vais lui dire non. Et donc, de toute façon, la décision est prise et il se coupe de la vie. Bon. J'ai ça en tête parce que, si vous me permettez, la fameuse phrase de Winnicott, la fameuse « good enough mother », la bonne assez mère, moi je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir.
La mère suffisamment bonne, vous voulez dire.
Voilà, exactement, oui, je me trompais. La suite de la phrase est encore plus intéressante. Quand l'enfant lui dit non, et qu'elle l'accepte. Et il me semble que là, il y a, dans cette parabole, il y a une petite parenthèse sur le courage de dire non à Dieu pour pouvoir, après, revenir. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 1000 autres, etc. Donc on voit bien que le repentir, il est presque le chemin de conversion. Il est presque le chemin de retour. Et ce chemin de retour n'est pas un chemin de soumission à Dieu. C'est un chemin, on va revenir avec tout soi-même. L'enfant prodigue, quand il revient avec toutes ses questions et toutes ses expériences. Et là, le premier revient avec... enrichi du débat qui a eu lieu en lui, alors que le premier ne s'est pas enrichi, il s'est appauvri de lui-même. Comme si Dieu voulait que nous passions par un moment, je vais appeler ça le point zéro, hors de lui, pour revenir à lui.
Jean-François Noël, Jésus referme la parabole des deux enfants en posant une question à ses interlocuteurs, qui sont donc les grands prêtres et les anciens. Lequel des deux enfants a fait la volonté du Père ? Donc on retrouve cette idée qu'il les met dans le coup, il veut les faire participer, les faire sortir de leur
questionnement stérile, leur enfermement stérile. Lequel des deux enfants a fait la volonté du père? Alors, ils disent, ces anciens, le premier.
Alors, évidemment, tel que c'est comme David avec Nathan et la parabole de la petite brebis, etc. Je veux dire, la parabole est si claire et si limpide, ils ne peuvent pas ne pas entendre quelle est la leçon. Et d'ailleurs, ça va permettre à Jésus, on le verra après, de déployer un autre aspect, qui est le problème de la justice qu'on va voir avec les publicains et les pécheurs. Là, ils vont pouvoir écouter. Au fond, cette parabole a déverrouillé les oreilles, déverrouillé leur cœur, en leur permettant, par le chemin de détour que Jésus a proposé, de sortir de l'impasse de surdité dans laquelle ils étaient enfermés. Sourds qu'ils étaient, sans savoir qu'ils étaient sourds. N'oublions jamais que l'annonce du royaume, et Matthieu va le dire d'ailleurs, l'évangéliste Matthieu va dire, les sourds entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent. C'est quand même incroyable que l'annonce la plus primitive de l'annonce des royaumes est du côté des entendre, de voir et de marcher. Et qui prouve bien que le péché des premiers, qui n'a pas l'air si péché que ça, mais qui est le péché, est la surdité. Mais pire que la surdité, c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils sont sourds. Et il va falloir que Jésus dérouille cette surdité pour qu'il leur permette d'entendre autrement qu'il est la parole et qu'il est la parole vivante. Et donc, là, il peut annoncer les publicains et les pécheurs.
Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Saltner.
Jean-François Noël, la parabole que nous lisons ce dimanche est située au 21e chapitre de l'évangile de Matthieu. Jésus a adressé sa petite histoire aux autorités religieuses du temple et il poursuit son propos et il va dire « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. » C'est clair, direct, sans détour. On imagine l'ambiance quand même.
Oui, ça c'est certain que là on retrouve la propos, j'allais dire, assez provocateur du Christ. Moi je pense que c'était un homme qui de fait devait trancher comme ça. Et c'est pas qu'il devait brusquer ou choquer, mais que sa parole devait pointer avec une pertinence, une acuité comme ça, comme une flèche qui vient au bon endroit. Parce que qu'est-ce qui est la moquerie des pharisiens lorsqu'ils se laissent un peu aller? C'est les prostituées, c'est les publicains. D'ailleurs, c'est intéressant que...
Faut rappeler, les publicains, c'est les collecteurs d'impôts.
Oui, hein. Bien sûr. Ben, c'est ceux qui sont les compromis ou les...
Les collabos.
Les collabos. Donc, on voit bien que lorsque les pharisiens cessent un peu aller et qu'ils commencent un peu à dire du mal des autres, ben, on va gausser sur les publicains qui sont des corrompus, qui sont pas comme eux, qui respectent pas la loi, et les prostituées, évidemment, bon. Donc, ça veut dire que les publicains et les prostituées qui sont si méprisés que ça, ils ont eu un chemin par un point zéro. Ils ont eu une proposition de point zéro.
C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu un chemin avec des refus, des noms, et puis il y a eu une élaboration petit à petit d'un oui.
Comme si l'élaboration ne pouvait se faire que quand on est comme l'enfant prodigue face à une mangeoire de caroubes qui sont pas très mangeables et qu'on est tout seul et on se demande si je vais devenir un cochon. On voit bien quand même qu'il a fallu que parfois on aille au bord de son propre puits. Je pense à la Samaritaine, hein, parce que la Samaritaine, le puits c'est quand même un lieu incroyablement révélateur du bord de son désir, de l'interrogation de son désir. Et ces gens-là, on peut pas imaginer qu'ils sont simplement décorrompus et dévendus, mais qui sont malheureux, enfin, ou blessés en tout cas, et cette blessure est un lieu, est une opportunité d'un retour sur soi, d'interrogation. Il faut bien comprendre que l'interrogation à laquelle Dieu nous envoie n'est pas morale. Elle est d'abord presque existentielle.
Et on prend souvent l'évangile pour de la morale.
Et voilà, alors on est en train de dire, bah oui, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Oui, oui, il faut répondre oui. Mais non, non, c'est pas ce qui est écrit dans le texte. Le texte dit, prenez le temps d'avoir un délai et de réfléchir à. Pourquoi vous n'avez pas voulu? Vous avez le droit de ne pas vouloir. En fait, il donne le droit à ne pas vouloir pour que dans ce non-vouloir, on s'interroge pourquoi on n'a pas voulu. C'est ça que le texte dit. Je veux dire, il épouse, comme il le fait à chaque fois, avec un soin infini, l'épaisseur de la vie humaine, sans ériger une loi qui l'obligerait par le haut.
Il est question de la justice, hein, associée à Jean-Baptiste. C'est quoi vivre selon la justice? Qu'est-ce que ça veut dire?
La justice, dans ce texte-là, c'est ce que disait Jean-Baptiste, ton péché t'oblige à une conversion, tu n'es pas ajusté à. Voilà, c'est ça la justice.
Et le péché, c'est quoi ?
Et le péché, c'est le non-ajustement. C'est cette division intérieure. C'est ça. C'est pas du tout moral. C'est que tu es divisé, mais tu ne sais pas encore. Va au cœur de ta division pour pouvoir effectivement prendre conscience qu'il y a une faille en toi. C'est ça le manque de justice. C'est ça la faille qui est en nous. Et la justice, c'est l'ajustement, l'unité profonde de l'homme qui tente d'accorder ses actes et ses faits, ses paroles et son cœur pour que l'ensemble de l'homme, sans rien trahir, puisse répondre plus pleinement à Dieu.
Jésus finit par dire au chef des prêtres, Jean-François Noël, « Vous-même, après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repenti pour croire à sa parole. » Voilà, le retournement des publicains et des prostituées aurait dû toucher le cœur des religieux.
Et oui, et c'est là qu'on entend que dans le texte, être religieux à cette manière-là est peut-être plus grave que d'être prostitué. Alors, je sais bien que c'est toujours exagéré et un peu insupportable d'imaginer qu'on n'a pas, vous et moi, envie d'être des collabos de je ne sais quel, ou prostituées en tout cas. Mais les termes sont suffisamment exagérés pour que on ne s'arroge pas le droit, quand même, si j'ai fait ci, j'ai fait ça, enfin, surtout des excuses, mais qu'on aille vraiment au cœur du repentir. Le repentir, c'est, en fait, je le résumerai comme ça, le repentir, c'est, je vaux mieux que ça. Il faut que je me l'avoue. Il faut que le Père me regarde. Pour que je vaux mieux que ça, c'est-à-dire, j'ai un avenir, j'ai un devenir qui n'est pas encore vraiment inauguré et que lequel je ne peux pas me déroger. Voilà, c'est ça. Un rendez-vous avec un devenir. C'est ça que je penserais le repentir. Le repentir, c'est pour ça que je disais que c'est spatial et temporel. C'est ce que dit Saint-Augustin. C'est un retour en arrière pour ouvrir un avenir.
Jean-François Noël, quelle est la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui quand on lit cette parabole, ce texte?
Il est encore temps. Il est encore temps pour moi. Je suis pas en retard. Je suis pas en retard. J'ai encore le temps du repentir, du retour sur moi, pour pouvoir me lancer, commencer. Enfin, moi, c'est comme ça que aujourd'hui je l'entends, ce texte, comme s'il était une actualité. D'actualité, c'est la bonne nouvelle, et que j'ai pas perdu de temps. Pourtant, Dieu sait que j'ai aussi parfois été divisé à l'intérieur et répondu oui, répondu non, etc. Hein. Et on pourrait illustrer ce texte par que votre oui soit oui et que votre non soit non. Hein. Je veux dire, au fond, on voit bien qu'on tourne autour de la même... Et par contre, il est beaucoup plus subtil là, parce que c'est que ce oui peut passer par des non et qu'il n'invalide pas. Et le non n'invalide pas le oui final, qui va être pris au plus profond de soi-même et dans son débat intérieur. Et Dieu n'est pas celui qui s'impose, il s'efface. Il s'efface pour que le débat se fasse sans lui, pour que nous puissions librement nous retourner vers lui.
Merci à vous, Jean-François Noël. La parabole que nous avons lue est à retrouver chez Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. Merci à Antoine Picot à la technique.